Je voudrais vous parler aujourd'hui pour terminer cette belle rencontre que nous avons eue depuis hier, vous parler de l'attention, à l'autre, qui est une question éthique importante pour Antoine de la Garandrie. Je me permets juste d'apporter peut-être quelques nuances ou quelques modérations à une prise de position que j'ai pu avoir hier par rapport aux méthodes pédagogiques, en disant que je, encore une fois, parce que je pensais l'avoir exprimé hier, que je ne suis absolument pas, d'ailleurs, je ne suis pas un censeur. Donc je ne vais pas venir et vérifier ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas. Ça ne fait pas partie de mon esprit. Mais je comprends tout à fait, je vais plutôt le dire ainsi, je comprends tout à fait l'usage, la nécessité de passer par des modèles, de passer par des exemples pour mettre en place des pratiques. Je ne m'oppose absolument pas à cela, je le conçois fort bien, hein. Sachez-le, et je ne veux pas apparaître comme un méchant qui serait en train de condamner toute personne qui mettrait en place des chemins méthodologiques pour pouvoir s'ouvrir, s'initier à la pratique de la gestion mentale. Alors, après ce bémol, cette nuance que je vous donne là, ici, je vais donc, oui, vous parler de l'attention à l'autre, prolonger finalement les réflexions d'hier sur les richesses de l'attention, par cette réflexion de type éthique, d'ordre éthique. Ce micro, finalement, va peut-être me déranger là, ici. Merci, merci. Alors, en fait, nous allons retrouver les ingrédients d'hier, les ingrédients de ce que j'ai appelé hier, pardon pour ce terme technique, l'époque phénoménologique, c'est-à-dire nous allons retrouver la nécessité d'une mise entre parenthèses, peut-être d'une volonté de conquête, d'une volonté de puissance que nous pouvons avoir à l'égard du réel et notamment à l'égard de l'autre, c'est possible. En tout cas, de mettre entre parenthèses un certain nombre de représentations, de catégories ou d'a priori que nous pourrions avoir à propos de l'autre. Je crois que le geste d'attention ou l'attention à l'autre va requiert cela en tant que tel. Et en exprimant cette idée, je pense être fidèle à l'esprit d'Antoine de la Garandrie, qui était toujours dans le souci d'accueillir l'autre dans sa singularité, dans son idiosyncrasie. Et cet accueil de l'autre, finalement, visait à faire émerger le pouvoir cognitif ou les possibilités de l'autre. Et cela nécessite, c'est difficile, certainement à mettre en place, parce que cela nécessite, de la part de celui qui s'adresse à l'autre, élève, patient, cela nécessite une ascèse du moi. Ça nécessite, à un moment donné, de parvenir à s'oublier ou à oublier quelque chose de soi-même. Et donc, appréhender le pouvoir sentant de l'autre nécessite ou requiert une passivité du moi en tant que tel. Alors, justement, Antoine de la Garandrie a écrit un bel ouvrage. Difficile de trouver cet ouvrage parce que c'était, pour moi, dans une édition confidentielle. Ce sont les éditions, toutes les œuvres d'Antoine de la Garandrie sur Teilhard de Chardin, chez Aubin, éditeur, mais je crois que c'est difficile de trouver l'ouvrage, ou peut-être par Amazon, bien que non, il ne faut pas dire Amazon, c'est une chose dangereuse pour les libraires, cher Philippe, c'est vrai. Mais il a écrit un ouvrage, Antoine de la Garandrie, qui s'intitule « Le sens de l'autre, de Lévinas à Teilhard de Chardin ». Et dans cet ouvrage, il écrit ceci. Il y a un sens du sens de la connaissance que l'homme doit vivre passivement. Il y a un sens du sens de la connaissance que l'homme doit vivre passivement. Une expérience de passivité. Et il ajoute, il en fait l'épreuve, celle de l'autre en lui. Hein, donc l'expérience d'une passivité en soi-même pour pouvoir mieux accueillir les intuitions de sens de l'autre. Alors, qui est ce moi? Qui est cet autre? Nous, nous allons montrer en fait que l'attention à l'autre, qui est une sorte de soin, ou qui est même le soin que nous pouvons avoir pour l'autre, cette attention s'exprime en fait dans différentes formes de relations possibles, amicales, amoureuses, éducatives, professionnelles, thérapeutiques, politiques, etc. Et chacune de ces relations s'inscrivent donc dans des codes établis, dans des dispositifs culturels qui les conditionnent. Il y a dans certains cadres professionnels ou éducatifs aussi, peut se poser par exemple la question de l'égalité entre moi et l'autre. On peut interroger, est-ce qu'il y a nécessairement une relation de bienveillance réciproque entre moi et l'autre dans tel cadre relationnel ? Y a-t-il relation de domination ou de soumission ? Et toutes ces questions-là ne sont certainement pas des questions anodines, parce que finalement, elles montrent que des représentations, quand je rencontre quelqu'un dans tel cadre, par exemple dans un cadre éducatif, je vais le rencontrer d'une certaine manière, vous le savez, c'est assez simple ce que je suis en train de dire, d'une certaine façon, et si je le rencontre cette personne dans un autre cadre, ce sont d'autres codes qui vont intervenir. Donc, si bien qu'il y a bien des représentations sociales, des représentations culturelles, qui me disent par avance comment je dois me comporter devant l'autre, et qui rend peut-être difficile l'accès à autrui, parce que je suis comme déterminé par toutes ces représentations sociales qui dictent d'une certaine façon mon comportement, et non pas d'une certaine façon, mais certainement mon comportement. Finalement, j'arrive en me disant, ou en ayant l'idée, voilà comment moi, enseignant, je dois me comporter devant l'élève, voilà comment moi, thérapeute, je dois me comporter devant le patient, et également comment l'autre, l'élève ou le patient, doit se comporter devant moi. Et on peut estimer alors, je prolonge la réflexion, que dans une relation éducative ou pédagogique ou thérapeutique, il y a nécessairement un déséquilibre au départ entre un moi qui sait, un moi qui dirige, un moi qui oriente, un moi qui autorise, et puis un autre qui écoute, qui apprend, qui se libère peut-être, qui ressent une autorité forte qui s'impose devant lui également. Et dans cette perspective, il semble en fait très difficile d'imaginer véritablement une écoute ou un regard amoureux, j'utilise le terme, ou aimant ou bienveillant, à l'égard porté sur l'autre ou à l'égard de l'autre. Et il me semble très difficile, par exemple, puisque Antoine de la Garandrie a étudié cet auteur dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, il me semble pour l'instant difficile de pouvoir utiliser l'éthique du philosophe Lévinas, qui consiste à renverser cette éthique du philosophe Lévinas, le rapport entre de responsabilité entre moi et autrui. Pour Lévinas, le moi n'acquiert son sens d'être que par autrui. Il est même responsable de l'autre, il a à répondre de l'autre. Il est même, pour Lévinas, l'otage de l'autre. Et on pourrait dire que pour Lévinas, il s'agit même de faire l'épreuve de l'autre en soi, pour se rencontrer avec soi-même. Et pour Lévinas, il faudrait dire que le moi est entièrement redevable d'autrui. C'est délicat. Est-ce qu'on peut dire que le moi du thérapeute, le moi du professeur est entièrement redevable d'autrui ? Est-ce que le moi du professeur est responsable, l'otage finalement, de l'autre ? Alors, on peut quand même concevoir, on peut concevoir que le moi du pédagogue, le moi de l'éducateur, de l'enseignant, du thérapeute, est réellement redevable de la présence de l'autre. C'est l'élève qui fait l'enseignant. C'est le patient qui fait être le thérapeute. Et vu ainsi, on peut dire d'ailleurs que l'enseignant a à répondre de l'élève comme le thérapeute a à répondre de son patient. Il y a donc peut-être un déséquilibre, comme je le disais tout à l'heure, mais voyez-vous, le déséquilibre, il n'est peut-être pas là où on l'attendait. C'est-à-dire qu'on imaginait, ça correspond à une réalité, qu'il y avait le maître et le maître de savoir, et puis l'élève qui écoute patiemment le maître de savoir, mais peut-être qu'en réalité, c'est plus le moi de l'enseignant, voyez-vous, qui est, d'une certaine façon, le serviteur de l'élève, qui deviendrait peut-être le maître du maître, pour renverser cette relation-là. Donc il y a peut-être en réalité un déséquilibre, mais là où on n'attendait pas, et je crois qu'Antoine de la Garandrie, voyez-vous, comme psychologue scolaire, comme pédagogue, comme enseignant, a fait l'expérience d'un décentrement du moi, du pédagogue, du psychologue scolaire et de l'enseignement. Et il est vrai que tout l'esprit du dialogue pédagogique, par exemple, se construit sur l'idée d'un droit à l'élève, à la responsabilité pédagogique. Le droit à l'élève, à la responsabilité pédagogique, c'est évoqué par Antoine de la Garandrie dans le dialogue pédagogique à la page 111 de l'édition Centurion. C'est un devoir pour l'enseignant de répondre à ce droit qu'a l'élève d'exercer librement son pouvoir de connaître. C'est ça la responsabilité pédagogique pour Antoine de la Garandrie. Ce pouvoir, exercer librement son pouvoir de connaître, devenir responsable de son être. Et ainsi, l'enseignant se met bien au service de l'élève. N'oubliez jamais, j'aime beaucoup donner cette étymologie, mais que le mot « pédagogue », en fait, veut dire « païs » en grec, c'est l'enfant, et « agos », ça désigne la course, ça veut dire « conduire ». Donc c'est conduire l'enfant, et le pédagogue, dans la société grecque, qui était une société esclavagiste, c'était l'esclave de la maison qui accompagnait l'enfant sur le chemin de l'école. Et le pédagogue est donc celui qui accompagne l'enfant sur le chemin du savoir. Alors, vous voyez, on peut reprendre la question en disant que, certes, se trouve être en jeu dans la relation entre moi, enseignant, moi, thérapeute, et l'autre, élève, l'autre, patient, se trouve en jeu la question de l'autorité, finalement. Et cette question de l'autorité est une question essentielle dans cette thématique sur l'attention à l'autre. Autorité, c'est celui qui autorise, en fait, autorité, a auctoritas. Celui qui autorise, celui qui rend possible. Donc oui, il y a peut-être, en effet, une forme de déséquilibre au départ. Bon, de façon indéniable, je me mettais presque dans une situation idéale, et on va retrouver cette situation idéale, mais qui peut se réaliser en tant que telle. Mais si nous reprenons le point de départ de la relation entre l'élève et l'enseignant, il y a ce déséquilibre qui est que le moi de l'élève, le moi du patient, finalement, est un moi qui se sent comme soumis devant une autorité ou devant une personne qui apparaît en effet plus grande, ayant une connaissance ou un savoir d'une haute qualité. Et finalement, ce que veut nous faire Antoine de la Garandrie, c'est au travers notamment du dialogue pédagogique, c'est comme une conversion qui doit s'établir au cours de la relation, une sorte de renversement qui s'opérer entre le moi de l'enseignant et le moi de l'élève. Car peu à peu, au cours de la relation, le moi de l'enseignant, le moi du thérapeute s'efface, peu à peu, d'où l'exigence d'une épopée phénoménologique, d'une réduction phénoménologique. Ce moi de l'enseignant s'efface peu à peu dans cette présence attentionnelle qu'il porte au moi de l'élève, de telle sorte d'ailleurs que l'élève finit par porter attention à lui-même. Et l'élève ou le patient finalement va faire le chemin, qu'accomplit l'enseignant ou le thérapeute, puisque le chemin de l'enseignant ou du thérapeute, c'est justement de pouvoir vivre les intuitions, et je vais revenir sur cette question ou sur cette idée, de pouvoir vivre les intuitions de l'élève, peu à peu, l'élève va suivre ce chemin de l'enseignant, mais non pas tant pour vivre les intuitions du professeur, mais pour vivre ses propres intuitions. C'est là une difficulté majeure. C'est-à-dire que l'élève a à retrouver non pas les intuitions de l'enseignant, mais ses propres intuitions, ses propres intentions de sens. C'est-à-dire que l'élève a à se recentrer sur lui-même au moment où l'enseignant se décentre. L'élève doit se rencontrer avec lui-même et à travers cette gestuelle ou ce geste justement de l'enseignant, ce geste que l'enseignant ou le thérapeute accomplit pour pouvoir s'ouvrir aux intuitions de l'autre. Dans cette attention portée à l'autre, disons-le ainsi, le moi de l'enseignant n'apparaît que comme un passeur, en fait, hein, ou le moi du thérapeute n'apparaît que comme un passeur. Alors, je vais me centrer aujourd'hui plus particulièrement, ou je me centre aujourd'hui plus particulièrement, finalement, sur l'éthique du pédagogue ou l'éthique du thérapeute. Comment être à l'autre, finalement? Comment accéder à la présence de l'autre pour permettre à cet autre de se rencontrer avec lui-même? Je me situe dans un cadre éthique et non pas moral ou déontologique. Je ne veux pas dire par là qu'il faudrait éliminer la déontologie ou le cadre moral, mais je vais préciser ce que j'entends ici. Il ne s'agit pas de moraliser la relation pédagogique. Ne pas être habité, voyez-vous, par des exigences morales, éthiques et non pas morales. Donc ne pas être habité par des exigences morales, ne pas appréhender le moi de l'élève ou du patient en fonction d'un bien transcendant. Ah, c'est bien ce que tu as fait. Oh, très très bien. Voir en fonction d'un mal. Oh, c'est mal, c'est nul, tu es un incapable. Oh, c'est bien ce que tu fais. Ni le bien, ni le mal ne constituent les normes à partir duquel on appréhende l'être de l'élève pour lui permettre à cet élève de se rencontrer avec lui-même. Et d'ailleurs, il faut se méfier de toutes les normes préétablies dans cette attention que je porte à l'autre. Sinon, notre attention à l'autre risque d'en être vicié. Sinon, on va venir avec toutes nos représentations morales et sociales qui déterminent notre regard sur lui. C'est la grande difficulté. Cela nous conduit, en effet, quand nous avons toutes ces représentations, à objectiver le moi de l'autre. Et nous enfermons le moi de l'élève et du patient dans des catégories, dans des typologies. On ne l'appréhende finalement que de l'extérieur. On l'appréhende en troisième personne. Et ce qui ne permet absolument pas à l'élève, dans ces cas-là, si on l'appréhende en troisième personne, de l'extérieur, ça ne permet pas à l'élève de s'adresser à sa propre vie intérieure. Il entend, en effet, un discours que l'on porte sur lui. Il observe comme une photographie que l'on peut faire de son être. Mais cela ne veut pas dire qu'il va pouvoir s'approprier cette photographie. De plus, cette objectivation, finalement, de l'élève ne s'adresse pas directement au vécu de sens de l'élève. D'où la nécessité, en fait, pour l'enseignant, pour le thérapeute, de suivre le chemin éthique que je préconise, qu'Antoine de la Garandrie préconisait, qui fait que l'on n'appréhende pas autrui à partir de normes ou de règles ou de valeurs, mais qui fait que l'on est porté par cette exigence. Faire en sorte que l'élève se rencontre avec lui-même. Qu'est-ce qui est bon pour lui? Qu'est-ce qui lui est utile? Non pas ce qui est bien, ce qui est mal, mais ce qui est bon, hein, voir ce qui est mauvais ou nuisible pour lui. Où est son utile propre? Alors ces deux dernières questions, ce qui est bon pour moi, ce qui m'est utile, peuvent inquiéter, parce qu'elles peuvent paraître futiles, et vous auriez raison de manifester. Et il est vrai que spontanément, l'élève pourrait très bien dire, comme le patient, ce qui est bon pour moi, c'est d'avoir les plus grandes satisfactions. Pouvoir jouir de la vie, faire ce que je veux, quand je veux. Là, il y a un danger réel, si vous voulez. En fait, il s'agit déjà, il ne s'agit pas de poser directement cette question à l'élève ou au patient. Qu'est-ce qui est bon pour toi, etc. Parce qu'en effet, ça va induire ce type de réponse. Il s'agit plutôt de rendre possible, par le dialogue pédagogique, une découverte. Peut-être aussi s'inventer un moi, c'est possible. Mais en tout cas, une découverte. Quelle découverte? Une découverte par laquelle l'élève ou le patient appréhende ce qui est bon pour lui, mais en quel sens? Appréhende ce qui est bon pour lui, c'est-à-dire ce qui est bon pour le développement de son pouvoir être, de son pouvoir de connaissance. Il s'agit finalement de montrer à l'élève qu'il y a tout un chemin qu'il peut accomplir pour éprouver une joie d'être. Et une joie d'être qui porte justement sur l'accomplissement, le développement de son pouvoir de connaissance. Non pas lui faire entendre par l'expérience, lui montrer, lui permettre d'expérimenter qu'il y a ce que Antoine de la Garandrie appelait des bonheurs d'état, je possède telle chose, j'ai la dernière console de jeu, etc. Puis il y a des bonheurs d'être, où le sujet actualise ses potentialités d'être. Donc il s'agirait justement d'initier l'élève à cette joie d'être qu'il ressent, qu'il va ressentir lorsqu'il se découvre artisan de la connaissance, il se découvre acteur de sens. Et là, le moi se découvre, peut-être que le moi s'invente aussi. Donc, le chemin éthique est là, si vous voulez. Qu'est-ce qui est bon pour lui, hein? Et il va rencontrer ce qui est bon pour lui par l'expérience même, si vous voulez, quand il devient acteur de sens, acteur de connaissance. Permettre à l'enfant qu'il comprenne combien son être est en appétit de connaissance et combien son être a besoin justement de se nourrir de connaissances et qu'il comprenne que l'appétit de connaissance finalement lui est utile parce que ça lui conduit à une sorte d'agrandissement de son être. Alors ce n'est pas là une mince affaire, car finalement, donc comprenons peut-être l'attention à l'autre et dans quel sens on peut faire vivre cette attention à l'autre, ce n'est pas une mince affaire, car comment véritablement vivre cette attention à l'autre? Et cela réclame toute une science de l'adaptation, la fameuse prudence que j'évoquais hier, qui est le savoir opportun, qui malheureusement ne s'apprend pas théoriquement, obsédé par ça, non pas si vous voulez avec des méthodes extraordinairement, des méthodes très générales, mais ça s'apprend par l'expérience, hein, non pas théoriquement, ce qui ne veut pas dire que l'on ne puisse pas justement utiliser des modèles, utiliser des modèles d'expérimentation, des méthodes ciblées pour pouvoir mettre en place des pratiques, mais c'est vrai que cette science de l'opportun, savoir justement être attentif à l'autre, ça prend par l'expérience. Comment faire les bons choix au bon moment, poser les bonnes questions au bon moment, faire les propositions adéquates au moment opportun, c'est-à-dire comment naître à l'intuition de l'autre. Comment naître à l'intuition de l'autre. Dans l'acte d'attention, il y a une visée de sens, hein, qui se nourrit des sensations, des perceptions multiples du réel. Et ce que je fais, c'est que je vise à promouvoir, par des évoqués d'attention, les significations des choses du monde. Est-ce que ce geste d'attention peut porter sur autrui? Est-ce que l'enseignant ou le thérapeute peut, finalement, quand il s'adresse à autrui, exercer ce geste-là d'attention? Incontestablement, il vise, l'enseignant comme le thérapeute, comme le pédagogue, il vise à faire vivre en lui, par des évocations, les intuitions, les intentions, les vécus de sens de l'autre. Sauf que, autrui, je ne peux pas le manipuler comme un objet de savoir. Je ne peux pas en faire le tour. Je ne peux pas le regarder sous différents angles. En bref, il est pour moi difficile de créer un climat de familiarité entre lui et moi. Ce n'est pas un objet, justement. Je ne peux pas faire le tour d'autrui. Je ne peux pas accéder directement au vécu psychique et donc au sens de l'autre. Le moi d'autrui, il est inobjectivable en réalité, inthématisable. Il m'échappera toujours, il y a toujours entre moi et lui, entre moi et l'autre, une barrière physique et psychologique, ce qui m'empêche finalement de viser réellement directement son sens d'être. Ce n'est pas ni une chose, ni un objet. Et là, l'attention à l'autre rencontre un obstacle, si vous voulez, majeur. cela ne doit pas nous conduire à renoncer à se mettre à l'écoute de l'autre. Il importe de faire l'hypothèse d'une autre forme de visée de sens, d'intentionnalité ou de projet de sens. Je vais appeler ça un projet de sens non pas immédiat, qui porterait directement sur la chose, mais c'est un projet de sens média, une sorte d'intentionnalité médiate. Je ne peux pas être pleinement l'autre, mais mon attention à autrui s'appuie sur le témoignage de cet autre en première personne, par la démarche introspective, sachant que ce témoignage porte sur des opérations cognitives que le sujet est en train d'accomplir. On pourrait parler d'ailleurs à ce niveau-là, dans un premier temps, plutôt d'une introspection méthodique quand nous interrogeons le sujet sur une tâche particulière et quand nous voyons quel type de projet de sens il est en train de mettre en place, ou qu'il développe, ou peut-être qu'il ne développe pas aussi s'il rencontre telle ou telle difficulté. Donc, par rapport à tel acte. Et puis, il y aurait une introspection, après l'introspection méthodique qui est plus riche, qui est l'introspection régressive, mais qui vient dans un deuxième temps, où là, on demande un vrai travail de la part de l'autre, un vrai travail de retour sur lui-même pour approfondir, pour aller rechercher beaucoup plus loin toutes ces structures de projet de sens, et non pas simplement par rapport à une tâche ponctuelle en tant que telle. Bien. Donc il y a cette prise en considération de ce témoignage qui ne suffit pas, parce que nous savons que nous devons procéder ici avec 1000 précautions, de nombreuses vérifications, et j'aurais envie de vous dire qu'il faut laisser place, comme pour toute attention, laisser même une place libre à l'incertitude, à l'inédit, à l'imprévu. Je peux, ce que je suis en train d'observer, ou ce que je suis en train de noter peut être éventuellement contredit ou va demander en tout cas des vérifications. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure, j'étais dans l'atelier animé par Armel, qui est un atelier passionnant, très riche, avec des interventions en sciences physiques, sciences de la vie et en mathématiques, qui c'était en même temps très... Il y avait de l'expérience, de l'expérimentation, c'était vraiment très riche. Et je crois que c'est Georges qui a dit que l'œil du physicien est dans l'attente de l'inédit. Hein, tu as dit quelque chose. On pourrait dire que l'œil du pédagogue, du thérapeute, de l'enseignant, il est dans l'attente justement de l'inédit, et que rien n'est figé, rien n'est donné définitivement. Donc il faut laisser place à cela. Et je dirais d'ailleurs que la prise en considération de ce témoignage doit être accompagnée de l'observation du comportement de l'élève, voir si ce qu'il dit correspond à ce qu'il fait. Et vous voyez combien l'acte d'attention ne doit pas épuiser les potentialités du réel. Hein. Et les évoqués d'attention restent toujours liés aux impressions sensorielles et à toute la vie perceptive que je peux avoir de l'autre. Hein, je suis en train de le regarder. Donc ce sont les évoqués d'attention par rapport à ça, d'ailleurs on peut aller même à l'autre, s'ajustent, s'actualisent constamment. Donc mon attention à l'autre reste toujours disponible à des expressions inédites possibles. Le possible est toujours plus grand que le réel. Alors, en quoi s'agit-il d'une intentionnalité médiate? C'est que mon attention à l'autre, si vous voulez, ne se réduit pas seulement à ce que je peux observer. Il va falloir que j'aille un petit peu plus loin. Il y a des interactions, d'ailleurs, dans cette attention, des interactions qui s'opèrent entre différents actes de connaissance. Les vécus de sens, les projets de sens de l'enseignant ou du thérapeute s'activent dans cette attention à l'autre. Par exemple, des acquis peuvent intervenir, vont venir enrichir la perception du témoignage et du comportement de l'élève pour mieux interroger les vécus de sens. Je dis bien pour interroger et non pas pour déterminer, pour enrichir ce que j'ai pu observer, les hypothèses et les réflexions premières que je peux avoir. Puis, et là, véritablement, l'intentionnalité médiate intervient. Puis, l'exploration imaginative, puis, peut-être avant, c'est possible, l'exploration imaginative est requise. Exploration imaginative, c'est une expression d'Antoine de la Garandrie. C'est en fait l'usage d'hypothèses pour parvenir à éprouver en soi-même les intuitions de l'autre. Et Antoine de la Garandrie, ici, reprenait les analyses de son maître, Burlou, qui, dans Le Caractère, a pu écrire ceci. Je lis. On fait de l'expérimentation imaginative. Alors, Antoine de la Garandrie parle de l'exploration imaginative et Burlou parle de l'expérimentation imaginative. On fait de l'expérimentation imaginative lorsque, après s'être enquis des manières de penser et de sentir d'une personne, on s'efforce de se mettre en esprit à sa place pour pressentir intuitivement ce qu'il fera en telle situation. Alors c'est là, si vous voulez, un tour de force remarquable, car il s'agit pour l'enseignant, le thérapeute, le pédagogue, d'être à la fois soi-même, parce qu'il y a une expérience de créativité, il y a des hypothèses qui interviennent, tout en étant l'autre, par une sorte de congruence, parvenir à s'ajuster à l'autre. Donc être soi-même par cette exploration imaginative, parce que c'est l'enseignant qui formule des hypothèses, faire preuve de créativité en imaginant des possibilités d'être et des vécus de sens possibles, voire inédits, et en même temps s'oublier soi-même pour ne pas projeter sur le moi de l'autre, de l'élève, du patient, ses propres modalités d'être. Ça, c'est une vraie difficulté. Hein. Il y a un ajustement, voyez-vous, important à accomplir. Et cette visée de sens, elle est médiate. Pourquoi ? Parce que mon rapport à autrui n'est pas direct, comme avec les choses du monde, mais indirect, par des voies imaginatives. J'observe autrui à l'aide de ses témoignages, à l'aide de ses comportements, et je vis par hypothèse et en imagination ce que peuvent être ses vécus de sens, qu'il me faut ensuite lui restituer pour l'accompagner dans la découverte et l'invention de son moi. Alors on comprend désormais la difficulté de la tâche. L'attention à l'autre nécessite à la fois un investissement et un désinvestissement du moi de l'enseignant, ce qui est particulièrement exigeant. Hein. Comment être soi-même, il y a un mouvement de soi-même, et comment pour en même temps se rendre disponible à l'autre, c'est-à-dire reconnaître les mouvements de sens d'autrui. Et ça participe, en fait, si vous voulez, ce double mouvement, à la constitution de l'éthique du pédagogue. Antoine de la Garandrie a dû consulter dans une vie antérieure, comme Socrate, l'oracle, s'il a eu plusieurs vies, l'oracle de Delphes qui intimait à Socrate de se connaître lui-même pour prendre soin de lui-même. Et répétant le geste de Socrate, aussi, la Garandrie souhaitait initier autrui à cette exigence-là, car il estimait que la connaissance de soi, de son pouvoir-être, de son pouvoir de connaissance, était le chemin d'une libération d'être, était le chemin d'un agrandissement de soi, et que tout cela donnait finalement lieu à une source, donnait lieu à un bonheur d'être. Et là, nous sommes vraiment dans l'exigence éthique, être quelque chose de plus. Je peux dire, si vous voulez, qu'une personne comme Franz Pagès, ici présente, a été très marquée par Antoine de la Garandrie au départ, au-delà de, si vous voulez, de toutes les ressources qu'elle a pu trouver pour réfléchir sur les actes cognitifs, mais au départ par cette exigence qu'Antoine de la Garandrie avait, c'est-à-dire naître à l'intuition de l'autre, croire en l'autre. Je crois que ça a beaucoup marqué Franz Pagès, qui est d'ailleurs elle-même dans cette exigence d'être à l'écoute de l'autre, qui a le souci de viser la liberté de l'autre. Je dis ça parce que Franz Pagès a vraiment été dans une situation de dialogue très, très riche avec Antoine de la Garandrie, d'autres personnes bien évidemment, mais à ce moment-là, je pensais tout particulièrement à elle. C'est comme ça que je me suis représenté en fait Franz Pagès quand j'étais plus jeune. J'imaginais que c'est ça qui la portait quand elle écoutait, elle suivait, elle accompagnait mon père. L'attention à l'autre, vous voyez, exprime alors une force particulière de l'attention qui est de prendre soin de l'autre. Mais se prendre soin de l'autre ne signifie pas vouloir prendre en charge l'autre. Il y a 2 ans, j'avais déjà fait une distinction, j'y vais très rapidement, rassurez-vous, mais qui est quand même importante entre ce que j'avais appelé la sollicitude devançante et la sollicitude substitutive. La sollicitude, finalement, c'est avoir le souci ou le souci de l'autre, ou avoir le souci ou le soin, le souci de l'autre en tant que tel. La sollicitude substitutive consiste finalement à vouloir faire à la place de l'autre, vouloir se substituer à l'autre. Alors que la sollicitude devançante, c'est se mettre dans une situation de projet de sens par rapport à l'autre pour que l'autre devienne son propre acteur et prenne par lui-même soin de lui. Ce qui renvoie également, au travers de cette attention à l'autre, ce qui renvoie à cette exigence d'effacement finalement du moi, et comment, voyez-vous, la conversion que j'évoquais tout à l'heure s'établit, c'est-à-dire qu'au départ, incontestablement, l'enseignant est le maître qui sait, etc. Mais au bout du chemin, c'est l'élève qui se libère du maître, hein. Et ce qui montre en même temps pourquoi l'enseignant, le pédagogue, le thérapeute a en charge la responsabilité ou doit répondre d'une certaine façon de la liberté de l'autre, et combien le moi du thérapeute est otage de l'autre. Alors cela requiert incontestablement de se mettre dans un état de disponibilité à l'égard d'autrui, à l'égard des singularités d'autrui, de ses modes d'être, de ses intuitions, finalement permettre que le moi de l'autre se manifeste avec force. Et il se trouve que Béatrice Labbé, ici présente, a écouté ce matin une émission sur France Culture, et elle a noté ce terme tout à fait magnifique, où on parlait, c'est une émission sur le geste, hein, c'est ça, où on parlait non pas d'anthropologie, mais d'anthropophanie. L'apparition, la manifestation, force, la lumière. Et je crois qu'Antoine de la Garandrie est dans une anthropophanie, bien plus que dans une anthropologie, c'est-à-dire non pas tellement constituer un discours sur l'homme, même si on peut dire qu'il a constitué un discours sur les actes de connaissance, mais rendre possible la manifestation des singularités de l'homme, hein, anthropophanie, P-H-A-N-I-E, hein, qui désigne la manifestation, comment la présence, comment l'autre se manifeste finalement à moi-même, au moi du pédagogue. Indéniablement, il y a dans toute cette perspective éthique un présupposé, un préjugé, vous pourriez le dire ainsi, un préjugé, oui, pourquoi pas, mais qu'on peut interroger par la suite, qui est que Antoine de la Garandrie et nous tous ici présents, finalement, nous croyons en l'homme, nous croyons dans ses possibilités de développement, dans ses potentialités. Il y a un optimisme, en fait, une foi que nous avons quand nous nous tournons vers l'autre, le patient, l'élève, etc. Cette attention à l'autre requiert, et j'en ai bientôt terminé, cette attention à l'autre requiert, me semble-t-il, aussi une sorte d'ironie sur soi-même de la part de l'enseignant ou de l'éducateur, du thérapeute. C'est quoi l'ironie, hein? C'est le fait de s'interroger, en fait. C'est l'action de s'interroger en feignant l'ignorance, etc. C'est la capacité de se mettre en question soi-même. C'est accepter, finalement, de ne pas être détenteur de la vérité d'être de l'élève ou du patient. Et il y a une mise en question perpétuelle qui doit se faire vis-à-vis de ce que nous pensons découvrir à propos de l'élève. Accepter de se confronter à une sorte de vide de connaissance ou d'interprétation. Même avoir, en allant un petit peu plus loin, une forme de confiance, et même une confiance quand nous allons à la rencontre de l'élève. C'est-à-dire, oui, il y aura de l'incertitude, oui, nous ne pourrons pas immédiatement savoir, mais il va y avoir des potentialités qui vont se révéler à travers ce que l'élève pourra nous dire, pourra s'exprimer. Et pour terminer toute cette dimension éthique sur l'attention à l'autre, je vous dirais que cette attention à l'autre, en fait, c'est une expérience d'amour, je vais le dire ainsi, et on peut utiliser trois sortes d'amour. Il y a tout d'abord Eros, pour les Grecs, qui désigne l'amour comme quête, comme tension. Je crois que finalement, il y a dans cette attention à l'autre comme une expérience amoureuse qui est proposée, c'est-à-dire qu'on souhaite une sorte d'initiation à l'amour du savoir, à l'amour de la connaissance, que chaque être humain porte en lui, avec l'idée que chaque être humain, chaque élève, chaque patient va faire finalement, va suivre une sorte d'ascension amoureuse vers cet objet de savoir. Donc le thérapeute, l'enseignant est un guide amoureux, hein, est un guide amoureux. Mais il y a aussi la dimension de l'agapé, A-G-A-P-E, accent grave, qui désigne pour les Grecs, autre forme de désignation de l'amour, qui désigne l'amour don. Car l'enseignant ou le thérapeute doit faire l'expérience d'un amour don. D'une certaine façon, quoique je vais apporter ici une nuance, l'enseignant ne travaille pas pour lui-même. Le thérapeute ne travaille pas pour lui-même. Est-ce qu'il a quelque chose à gagner ? Il est au départ au service de l'autre. Il ne vise pas son intérêt, mais le progrès de l'autre. Alors, ce qui n'interdit pas, donc il y a une sorte de don, hein, je donne pour rien, finalement. Ce qui n'interdit pas, malgré tout, de considérer que cet amour qu'il donne le nourrit à plusieurs niveaux. Tout d'abord, l'enseignant et le thérapeute éprouvent le plaisir de donner. Il y a une expérience, il y a une joie d'être. Et pour lui, d'ailleurs, c'est comme aussi une sorte d'agrandissement de son être. Il y a aussi la joie de voir l'autre se construire et se développer. Et puis enfin, il y a cet enrichissement qu'autrui lui apporte, car autrui lui enseigne quelque chose. Et c'est là aussi où on voit le renversement, voyez-vous, de la relation. Peut-être que l'élève devient l'enseignant, hein, de l'enseignant, car c'est par l'autre que je deviens enseignant, c'est l'autre qui m'enseigne. Et ce qui montre aussi que dans cette attention à l'autre, je ne dois pas être dans une sorte d'attitude de conquête, véritablement dans une situation d'accueil des richesses de l'autre, et c'est parce que justement je ne suis pas dans une attitude de conquête que je vais pouvoir mieux accueillir tout ce que l'autre, par la suite, pourra me donner. Donc cet amour-don, certes, n'est pas complètement gratuit, mais oui, puisqu'il m'enrichit. Paul Ricoeur, j'ai cette citation de Paul Ricoeur dans Le volontaire et volontaire, il me reste juste quelques mots, une dernière perspective à vous donner. Ricoeur écrit ceci dans Le volontaire et l'involontaire, à la page 17, « Le moi doit renoncer à une prétention secrètement cachée en toute conscience, abandonner son vœu d'autoposition pour accueillir une spontanéité nourricière. » Et comme une inspiration qui rompt le cercle stérile que le soi forme avec lui-même. Je trouve ça admirable, voyez-vous, accueillir une spontanéité nourricière. Et l'autre comme une inspiration. Et ce qui va d'ailleurs pour le moi de l'enseignant, ce qui lui permet, si vous voulez, de sortir d'un cercle égoïque en tant que tel, et avec toutes ses prétentions, ses connaissances, son savoir, sa place de maître. Enfin, dernière perspective, j'ai dit Eros, Agapé, il y a la troisième forme d'amour pour les Grecs, qui est la philia, qui est la bienveillance réciproque. J'aurais envie de vous dire que c'est au travers de cette relation que l'autorité de l'enseignant se constitue. Elle n'est peut-être pas une donnée première, elle l'est formellement, j'ai l'autorité, mais on est beaucoup plus dans l'autoritarisme. L'autorité, elle s'accomplit dans la relation. Et on pourrait dire même que la reconnaissance du maître par l'élève n'est pas première, sinon on est dans l'autoritarisme. Elle se construit. Et elle se construit parce que l'enseignant a initié une relation de bienveillance en se mettant à l'écoute du projet de sens de l'élève et en évitant aussi de le culpabiliser par rapport à ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Même quand il apporte une mauvaise réponse en classe, c'est nul, tout ce que tu racontes, pas au niveau. Ah bon, quelle était ton intention de sens, hein? Qu'est-ce que tu visais? Non pas tant, voyez-vous, vouloir l'enfermer dans une erreur, au contraire, se nourrir de ses intentions pour lui permettre de mieux se développer par la suite. Donc on change le regard, on n'est pas dans une perspective moralisante, hein? On est vraiment dans une perspective éthique en tant que telle. Et à partir de ce moment-là, la réciprocité, la bienveillance réciproque va être possible parce que l'élève, incontestablement, sera reconnaissant d'être reconnu dans son idiosyncrasie et dans sa différence. Il faut d'ailleurs peut-être qu'il y ait cette sorte, que l'élève puisse éprouver une sorte de distance entre lui et le maître, comprendre qu'il ne fait pas un, hein, et qu'il a justement ses particularités. Et là, la bienveillance réciproque, la reconnaissance, parce qu'il y a une distanciation, la reconnaissance entre le maître et l'élève pourra avoir lieu. Et on n'est plus du tout ici dans des embarras ou dans des problèmes de savoir qui domine, qui ne domine plus ou qui ne domine pas, ce n'est plus la question. Alors, je crois que tout cela, voyez-vous, c'est ce qui a animé, là j'ai essayé de rendre compte de l'éthique d'Antoine de la Garandrie dans sa rencontre à l'autre. Je dirais d'ailleurs que cette attention à l'autre pour Antoine de la Garandrie n'était pas simplement dans la relation pédagogique, elle était aussi dans la relation amicale, dans la relation familiale, dans la relation amoureuse, dans toutes les formes, dans les relations professionnelles. Antoine de la Garandrie était porté toujours par cette exigence. Et je pense qu'il avait... Il avait en lui cette phrase de Simone Veil qui va, comme hier, achever mon propos, qu'on trouve dans La pesanteur et la grâce, où Simone Veil dit ceci: aimer purement, c'est consentir à la distance. C'est adorer la distance entre soi et ce qu'on aime. Je vous remercie.